dire aussi que nous sommes heureux de saluer parmi nous Mademoiselle Appéré, Mademoiselle Claire Appéré, qui nous fait l'honneur de sa présence, c'est un plaisir. Elle est avec nous ce matin. Je vous invite à lire quelques lignes de l'Écriture avant que nous commencions d'étudier notre sujet. Il s'agit du prologue, comme on dit, des premiers versets de l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, au premier chapitre, les quatre premiers versets. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils, en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, ta parole est vérité, ta parole est vie. Veuille nous donner de recevoir l'enseignement de ta parole. Veuille nous ouvrir le cœur par ton esprit. Veuille nous donner l'intelligence et la volonté d'appliquer tout ce que nous devons appliquer. Veuille nous guider dans cette heure qui commence. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Nous avons considéré la fois dernière, quelques-uns peuvent se le rappeler, qui est Jésus ? L'enseignement de l'Écriture sur la personne de Jésus-Christ et sa constitution. Nous restons aujourd'hui au cœur de la foi en considérant le rôle que Jésus-Christ joue pour nous. Jésus, notre Sauveur. Sa personne même a été constituée en vue de la mission qu'il avait reçue. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et le nom même qu'il porte, comme vous vous le rappelez, Jésus, Yahshua, contraction de Yahshua en hébreu, ce nom même qu'il porte, l'ange l'a expliqué en disant « il s'appellera Jésus, c'est le nom que vous lui donnerez, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés ». Le mot vient de la racine « sauver » en hébreu. Donc, dès que nous disons le nom de Jésus, nous évoquons son rôle de sauveur. Nous restons donc tout à fait au centre du message de la Bible. C'est à cause du salut qu'il y a bonne nouvelle pour nous, qu'il y a un évangile. Sans quoi, la Bible ne nous apporterait guère de bonne nouvelle. Sans quoi, nous aurions en elle seulement la révélation de notre misère, du sort affreux que nous avons mérité. Nous serions complètement écrasés par la révélation d'une vérité qui serait vraie, oui, ce serait la vérité, mais qui serait pour nous la révélation d'une destinée entièrement négative. Parce que Jésus est notre Sauveur, il y a bonne nouvelle. Alors notre effort pour en traiter aujourd'hui sera un effort de saisie d'ensemble. Nous allons essayer d'obtenir une vue panoramique de l'œuvre de Jésus comme sauveur. C'est le sujet que nous traitons le plus souvent, bien sûr, puisqu'il est au centre de la Bible, que c'est l'évangile qui est annoncé de la chair tous les dimanches. Le sujet, nous le connaissons forcément assez bien. Mais ce qui nous manque parfois, c'est la vue globale, avec les éléments au moins principaux qui concernent notre salut en et par Jésus-Christ. Donc je vais essayer de vous fournir une vue très englobante, et je le ferai aussi en insistant sur l'appropriation, comment ce qu'il nous a acquis devient nôtre, effectivement. Ce sera aussi un élément dans le panorama. Alors je vais user d'une présentation, qui est une présentation classique, que Calvin surtout a mise en honneur, la présentation de cette œuvre de salut sous l'angle des trois offices de l'onction. Dans l'Ancien Testament, il y avait trois offices, trois services que Dieu avait établis dans le peuple de Dieu et qui étaient marqués par une onction, c'est-à-dire qu'on répandait de l'huile sur la tête des titulaires. C'était un symbole de leur consécration à Dieu et aussi de la qualification par Dieu. L'huile représentant sans doute le Saint-Esprit ou les dons du Saint-Esprit rendant capables ceux qui avaient reçu l'onction d'accomplir leur tâche. Alors il y avait trois offices d'onction. Il y avait les prophètes, ils n'étaient pas tous littéralement oints avec de l'huile, mais ça pouvait arriver. C'est ce que nous voyons dans l'histoire d'Élie et d'Élisée par exemple. Et ils étaient oints du Saint-Esprit, comme de l'huile sainte qui les rendait capables d'être prophètes. Et donc on parle de l'office de prophète comme d'un office d'onction. Et puis il y avait les prêtres, et en particulier le grand prêtre, qui était oint, qui recevait l'onction pour faire son service, et il y avait le roi. Le roi, c'était l'oint par excellence, le mot « messie » signifiant « oint ». Le mot « messie » n'est que la transcription en français du mot qui signifie « oint » en hébreu. Nous allons exposer l'œuvre de Jésus pour notre salut sous ces trois angles. Celui du rôle prophétique, du rôle sacerdotal de prêtre et du rôle royal. Et puis nous ferons chaque fois la même démarche, je pense que ça facilite la bonne compréhension, nous partirons de notre situation de misère, de manque, de détresse. S'il y a salut, c'est parce qu'il y a perdition. Si nous avons besoin d'être sauvés, c'est parce que ça va mal. Que nous sommes perdus. Et alors nous allons voir comment, selon les trois grands panneaux que nous allons voir se dessiner dans l'Écriture, c'est un remède à notre perdition que Dieu a pourvu par Jésus, de telle sorte qu'il est notre sauveur. Et je peux vous dire tout de suite les trois petites phrases que j'ai choisies comme les trois titres de mes trois parties principales. Prophète et verbe, Jésus nous sauve de l'ignorance et de l'aveuglement. Ce sera le premier point. Deuxième point, ce sera grand prêtre et victime, Jésus nous sauve de la souillure et du châtiment. Et le troisième point sera roi et seigneur, Jésus nous sauve de la tyrannie et de l'impuissance. Prophète et verbe, il nous sauve de l'ignorance et de l'aveuglement. La première dimension de notre détresse, c'est ce que le cantique que nous chantons parfois, nous n'avons pas chanté ce matin, exprime dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir. Mais à nos yeux, tu te fis voir. La première dimension de notre perdition, c'est ces ténèbres qui nous enveloppent. Nous sommes perdus comme on est perdu dans le brouillard. Nous sommes perdus dans le sens que nous ne voyons pas quel chemin nous devrions prendre, que nous ne voyons pas sur quels obstacles nous allons buter et nous faire très très mal. Nous sommes perdus dans la désorientation. Il y a ignorance et il y a pire même que la simple ignorance. Nous sommes trompés par le mensonge. La vie humaine est comme tissée d'une multitude de mensonges qui ne cessent d'occuper notre esprit et de tordre les perspectives que nous devrions admettre. Au lieu de mettre en avant les vraies valeurs, le mensonge circule que ce qui finalement vraiment fait réussir la vie, c'est de gagner beaucoup d'argent, c'est de jouir autant qu'on peut, c'est d'écraser les autres pour se mettre à la première place, parce que c'est finalement comme ça qu'on réussit, et ainsi de suite. Les mensonges qui sont dans l'air du temps, vous savez, leur virulence, et les médias, c'est un trait de notre époque, les médias multiplient l'efficacité, les impriment dans notre inconscient même, et la pub prend le relais. Nous sommes là dans un univers mensonger qui, en quelque sorte, renforce les ténèbres. Et celui qui mène le mal, c'est le menteur par excellence, le diable. Jésus souligne qu'il est le menteur, qui est très habile pour nous séduire, qui sait mettre en œuvre toute une méthode de séduction. Donc nous sommes, c'est la première dimension de notre détresse, dans une ignorance en mêlée de mensonges. Ce n'est pas seulement le vide par rapport aux connaissances, ce sont des fausses connaissances qui encombrent notre esprit et qui dévoient notre vie. Et puis, peut-être encore pire, il n'y a pas seulement les ténèbres autour de nous, mais ce mensonge qui partout s'infiltre, il y a notre aveuglement, notre cécité, notre incapacité à voir la lumière qui, dans la création de Dieu, brille encore, en dépit des mensonges de l'adversaire. Nous sommes aveugles. Et voilà qui correspond à une première dimension de notre misère. Dans le livre du prophète Ésaïe, il y a un verset qui correspond bien à cette première dimension, au chapitre 59. Verset 9, deuxième partie. Nous espérions la lumière, et voici les ténèbres. La clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. Et voilà la première dimension. Et c'est comme un remède à cette perdition-là que Jésus nous est envoyé comme prophète. Jésus a été oint comme prophète. Il a lu le passage du prophète Ésaïe, chapitre 61, celui-là, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour apporter le message ». Il l'a lu dans la synagogue de la ville de son enfance, à Nazareth, en disant « Maintenant, ces choses-là s'accomplissent ». Il s'est présenté comme prophète, il a été en général reconnu par les foules comme prophète. C'est cela qui les frappait en lui. Et d'ailleurs, l'état de vie, très concrètement, qu'il avait choisi pour les années de son ministère, pendant les 3 ans de son ministère itinérant, c'était celui d'un prédicateur. C'était comme un prophète, effectivement, qu'il se présentait. Et les signes de miracles accompagnaient comme des preuves annexes, des témoignages qui montraient qu'il était un vrai prophète, sa prédication, comme il était assez habituel, sans que c'était universel, parmi les prophètes de l'Ancien Testament. Il est prophète, il est plus qu'un prophète, il est le prophète. Ce titre lui est aussi donné. Moïse avait annoncé au chapitre 18 du Deutéronome que Dieu allait susciter en Israël un prophète tel que lui. Un nouveau Moïse qu'il faudrait écouter. Et les Samaritains même, qui n'avaient retenu que la loi de Moïse, que les 5 premiers livres de la Bible, qui refusaient le reste de l'Ancien Testament, savaient que cet homme allait venir. Et la Samaritaine, lorsqu'elle parle avec Jésus au chapitre 4 de l'Évangile de Jean, elle l'appelle le Messie, parce qu'elle sait que les Juifs l'appellent le Messie, mais c'est ce personnage qu'elle a en vue en disant « Oui, nous savons que celui que les Samaritains appelaient le restaurateur, celui qui allait remettre les choses en place, doit venir et il nous annoncera toutes choses. C'est le prophète, le nouveau Moïse. » Et les prophéties du serviteur de l'Éternel, un titre de Moïse, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 42, au chapitre 53, ce serviteur de l'Éternel, c'est le nouveau Moïse, attendu, dont Ésaïe a annoncé avec plus de précision ce qu'il allait faire. Jésus est le prophète, le nouveau Moïse, qui comme Moïse a conduit la libération du peuple à travers le premier exode, conduit la libération de son peuple à travers le nouvel exode, qui comme Moïse a été l'instrument d'une première alliance, l'ancienne alliance, est l'instrument de la nouvelle alliance. Jésus est le prophète, et il est même plus que le prophète. Il est le prophète, mais étant le prophète, il est plus que prophète. Les prophètes sont les porte-paroles qui remédient à l'ignorance et qui contrent le mensonge humain et diabolique par la parole de vérité. Et Jésus le fait. Jésus apporte le message de vérité. Mais il est plus que ça encore. Il est lui-même la parole. Il est lui-même le contenu de ce qu'il annonce. Dans un sens supérieur, il est la parole de Dieu. Il est le verbe, le mot verbe est un synonyme de parole. L'avantage avec le mot verbe, c'est qu'on a un masculin qui convient encore mieux pour Jésus. Il est le verbe. C'est le titre que l'évangile de Jean utilise pour le présenter au premier chapitre. Donc, Jésus est plus qu'un prophète qui porte la parole, il est lui-même la parole. Et saint Augustin, ce grand chrétien autour de l'an 400, avait très bien perçu une chose. Vous vous rappelez que Jean-Baptiste se présente, lui, le précurseur de Jésus, qui est venu pour ouvrir la voie devant Jésus, comme la voix qui crie dans le désert. Qui es-tu ? Je suis la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Alors saint Augustin disait, Jean-Baptiste, c'est la voix, et Jésus, c'est le Verbe. La voix qui met en avant le Verbe. Notre voix communique le Verbe, le précède. La voix, on entend d'abord la voix, puis ensuite on comprend ce qui est dit. Et puis la voix, l'écho, on disparaît. La voix, elle passe. Mais la parole qui a été dite demeure. Le Verbe demeure. Cela correspond remarquablement ce qu'avait perçu là saint Augustin. On peut dire encore que après les serviteurs, les prophètes, par lesquels Dieu a parlé à nos pères à plusieurs reprises et de diverses manières, Jésus est le Fils, il est le prophète Fils. Et c'est bien sûr ce que souligne l'Épître aux Hébreux dans le passage que nous avons lu. L'Épître aux Hébreux commence par le rôle prophétique de Jésus-Christ. Jésus nous donne la vraie connaissance du Père. Il est le Fils qui parle pour nous faire connaître Dieu. Il est l'expression même de l'être de Dieu. C'est le premier des offices sauveurs du Christ, car nous avions absolument besoin de cela pour être sauvés. Alors, il faut peut-être préciser encore un peu les choses lorsque l'on considère comment Jésus-Christ joue ce rôle de prophète pour nous. Aujourd'hui, maintenant, en 2002, comment le rôle prophétique de Jésus-Christ, porte-parole et parole même de Dieu, du Père, comment nous touche-t-il? Je pense qu'on doit dire deux choses principalement à cet égard. La première, c'est que concrètement, c'est par la Bible que le rôle prophétique de Jésus-Christ s'exerce effectivement en notre faveur. C'est le rôle de la Bible même. C'est le témoignage qui reste du ministère de prédication de Jésus et d'annonce par son esprit, donc qui sont associés à lui, de sa parole par les prophètes venus avant lui et les apôtres qu'il avait choisis. La Bible, c'est le témoignage prophétique de Jésus-Christ. Donc, concrètement, Jésus nous est prophète lorsque nous ouvrons la Bible et que nous recevons ce que la Bible nous dit. Cela veut dire deux choses, me semble-t-il. Cela veut dire que nous n'adorons pas la Bible. La Bible, nous l'aimons. Mais nous l'aimons parce qu'elle nous fait connaître Jésus. C'est pas comme une curiosité pour archéologue, ce n'est pas comme, même s'il a plu à Dieu de produire de tels phénomènes, je n'en suis pas sûr, mais c'est pas parce qu'il y aurait des phénomènes numériques, des valeurs numériques cachées dans les versets, c'est pas comme pour ça que la Bible nous tient tellement à cœur. C'est parce que la Bible nous fait connaître celui qui est la parole de Dieu en sa propre personne, le Fils par lequel nous connaissons le Père. Nous n'adorons pas la Bible, mais la Bible a une importance capitale pour nous, parce que c'est justement par elle que Jésus se fait connaître à nous, et que Jésus est le prophète, celui par qui nous sommes libérés de l'ignorance, du mensonge. Ça, c'est le premier aspect. Concrètement, plus on prend conscience des ténèbres qui nous entourent, plus on se rend compte que c'est par la Bible que Jésus-Christ nous en délivre. J'avais prévu ces petits dessins-là, hein, puisque je vous fais des petits dessins d'habitude. Pour d'autres situations, voilà, c'est génial, hein, voilà. D'autres situations. L'ignorance, les ténèbres, le mensonge. Et Jésus-Christ est le soleil de justice, la lumière du monde comme parole de Dieu, qui brille et repousse les ténèbres, triomphe de ces puissances de mensonge par sa vérité. Jésus-Christ, lumière du monde, mais lumière du monde par, pourrait-on dire, le miroir qu'est la Bible. La Bible, c'est le miroir où nous voyons Jésus. L'apôtre Paul dit que nous voyons comme dans un miroir. Quel est ce miroir? C'est le miroir des œuvres de Dieu dans le monde, mais ces œuvres de Dieu dans le monde même, nous les connaissons par la Bible. C'est là qu'elles ont été recensées, décrites, et que leur sens nous est donné. Donc, les œuvres et les paroles de Dieu dans le monde nous sont connues dans le miroir de la Bible. Et donc, nous les contemplons dans ce miroir qui nous est donné. Et c'est Jésus qui est le sujet principal, sinon exclusif, de la Bible, comme Blaise Pascal l'avait souligné. Toutes les Écritures regardent à Jésus-Christ. Ça, c'est le premier grand point par rapport à notre accès à ce rôle prophétique de Jésus-Christ. Le second, c'est que nous avons toujours besoin d'être guéris de notre aveuglement. Même avec la lumière du soleil de justice brillant dans le miroir de la Bible, si nous sommes aveugles, nous n'y voyons rien. Nous avons besoin que le Saint-Esprit accompagne la parole de Dieu. C'est le rôle du Saint-Esprit d'illuminer les yeux de notre cœur, selon une formule de l'apôtre Paul, ou on peut dire encore, de faire tomber le voile qui nous empêche de bien voir, de faire tomber les écailles que nous avons aux yeux, les écailles de cette cécité spirituelle. Si j'utilise cette image des écailles, vous vous rappelez que Dieu l'avait, comme une sorte de symbole, matérialisé dans le cas de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, qui croyait bien y voir, mais qui était complètement aveuglé par son fanatisme, sa haine et sa théologie faussée des œuvres et du salut par les œuvres, il est arrêté net par le Seigneur sur le chemin de Damas. Mais pour bien lui montrer qu'il était en fait dans les ténèbres, lui qui croyait avoir plus de lumière que les autres, Dieu a voulu que pendant 3 jours il reste aveugle. Et lorsqu'il en a été guéri, en rencontrant Ananias, des écailles lui sont tombées des yeux. C'est un symbole de ce qui joue pour nous tous. Naturellement, nous n'y voyons pas clair comme il faudrait pour recevoir la lumière, et nous avons besoin de l'œuvre du Saint-Esprit qui fait tomber les écailles de nos yeux en même temps qu'il nous donne la parole de Dieu dans la Bible. Alors ça, c'est, je dirais, le principe fondamental en ce qui concerne notre accession au fruit du ministère prophétique de Jésus-Christ. Mais il faut encore dire une chose, me semble-t-il, c'est que nous commençons seulement de connaître les choses dans la vérité de Dieu. Dieu nous touche par sa parole et par son esprit, mais nous ne sommes pas encore arrivés au but ultime. La Bible elle-même, bien qu'elle reflète avec une parfaite justesse la lumière du Fils de Dieu, la Bible est toujours prise comme entièrement vraie dans tout ce que la Bible nous montre, et c'est la grande conviction chrétienne à travers les siècles. La Bible quand même nous donne seulement une connaissance partielle. L'apôtre Paul souligne au chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens que nous connaissons en partie seulement, et que nous voyons dans un miroir en énigme. La connaissance reste indirecte, et il y a bien des énigmes qui ne sont pas débrouillées. Alors quand je dis en énigme, en fait, je traduis très littéralement. Le verset de la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, dit nous connaissons par un miroir en énigme. Ça a été traduit par beaucoup de traductions d'une manière obscure. Mais en fait, c'est contesté par un certain nombre de commentateurs en disant c'est pas dit de manière obscure. Pas forcément. Les anciens faisaient des miroirs qui étaient de très bons miroirs. Il ne faut pas s'imaginer que c'était seulement comme des couverts de boîtes de conserve et que tout était... Non, ils faisaient de très beaux miroirs. Et il ne faut pas dire parce que c'est un miroir, c'était donc forcément de manière obscure. Moi, je pense qu'il faut garder, là, la traduction tout à fait littérale en énigme. Parce qu'en fait, c'est bien ça ce qui se passe. Nous ne connaissons pas tout par la Bible. Il y a des choses cachées qui restent au Seigneur notre Dieu, même lorsqu'il y a des choses révélées qui nous sont données. Ça, c'est ce que le Deutéronome, chapitre 29, disait déjà. Et parmi les choses révélées, il y en a que nous avons du mal à comprendre. Il y a des énigmes qui subsistent. Et que, dans la patience de la foi, nous apprenons à supporter, en attendant de connaître comme nous sommes connus. Donc, il y a une limitation affectant la communication même de la lumière. Ça reste encore partiel. Et puis, il y a l'autre limitation. Les écailles sont tombées de nos yeux. Nous avons vu, ô Fils de Dieu, quand ta lumière brilla dans mon obscurité. C'est dans nos cantiques aussi. Mais nos yeux ne sont pas quand même guéris à 100%. Et en tout cas, facilement, nous retombons dans certains défauts de la vision. Là, il y a aussi un verset qui le dit de façon très, très intéressante et que les traductions parfois ne laissent pas tout à fait percevoir. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, nous sommes exhortés à progresser, à joindre à notre foi la vertu, la connaissance, etc. Et l'apôtre Pierre dit, celui qui ne les possède pas est un aveugle ou il a, alors traduction de la Bible à la Colombe, il a les yeux fermés, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Mais il y a une note, littéralement, il est myope. C'est le mot grec qui a donné le mot myope en français. Et je pense qu'on peut dire que c'est un défaut de vision qui affecte des chrétiens. Ils y voient, mais de façon myope. Alors qu'est-ce qui se passe avec le myope? Bien, vous savez que le myope, au lieu de voir les choses lointaines, voit les choses qui sont près, mais loin, ça se brouille, ça se trouble. Mais on comprend très bien ce que c'est que la myopie spirituelle. La myopie spirituelle consiste à conduire sa vie en fonction des choses qui sont toutes proches, dont des choses de la terre, des intérêts quotidiens, et puis les choses qui sont plus loin, mais qui devraient compter plus pour l'orientation, alors elles s'estompent, on ne les voit plus très bien, on ne conduit plus sa vie en fonction des choses célestes, ultimes, parce qu'elles sont trop loin. Alors il y a le défaut inverse, c'est un défaut que j'ai pour lequel je porte des lunettes, c'est l'hypermétropie. L'hypermétropie, on voit bien loin, mais c'est une fatigue constante. L'hypermétrope voit à distance, si j'enlève mes lunettes, je peux voir à distance, mais ça crée une tension perpétuelle. Alors je dirais que le chrétien hypermétrope, ce serait le chrétien qui ne sait pas se reposer dans la grâce du Seigneur, qui considère bien les choses qui sont les plus lointaines et décisives, les choses du ciel, mais comme peut-être par un petit soupçon de légalisme, il ne se repose pas dans la grâce du Seigneur. C'est toujours un effort dur, pénible. Ça pourrait correspondre à l'hypermétropie. Là, il n'y a pas de verset dans la Bible pour le dire, mais c'est un thème biblique, me semble-t-il. Il y a aussi l'astigmatisme. L'astigmatisme, c'est la déformation des perspectives. Les lignes se sont légèrement tordues. Eh bien, ça aussi, c'est un défaut de la vision spirituelle. Ça joue pour beaucoup, en fait j'en ai un petit peu aussi avec mes yeux d'astigmatisme. Alors le cerveau corrige automatiquement, c'est pour ça qu'on s'en rend pas compte. Mais quant à la vision elle-même, il y a cette déformation. Et spirituellement, c'est grave. Et puis peut-être pourrait-on parler aussi du strabisme. Le chrétien qui louche, louche vers les choses du monde, hein. Qui veut bien essayer de regarder le Seigneur, mais en même temps, le regard glisse à gauche ou à droite. Voilà une façon d'illustrer les défauts de vision dont nous avons à être guéris constamment en attendant d'atteindre la perfection de la vision qui nous est promise lorsque nous le verrons face à face et que nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Dans toute sa beauté de lumière du monde. Deuxième dimension de notre perdition, et je pense que c'est elle qui est la plus déterminante dans la perspective de la Bible, nous sommes perdus comme l'assassin est perdu que son avocat n'a pas réussi à défendre. Nous sommes perdus sous le coup de la condamnation par le juste juge. Nous sommes perdus parce que notre dette à l'égard de la justice, décider là une reconnaissance de dette, nous sommes perdus parce que cette reconnaissance de dette, et c'est tellement majeur que ça mérite la mort. Il n'y a que la mort pour payer une dette pareille. Notre reconnaissance de dette, elle est là. Nous sommes perdus parce que nous sommes couverts d'une culpabilité dont nous sommes absolument incapables par tous nos efforts à nous libérer. On peut le dire aussi dans un autre langage, mais au bout du compte, c'est équivalent dans la perspective biblique. Puisque le juge, c'est le saint d'Israël, trois fois saint, feu dévorant de sainteté, nous sommes perdus parce que nous sommes des créatures souillées. Nous sommes couverts d'une saleté qui sent mauvais, et Dieu ne peut pas supporter une telle souillure en sa présence. Alors la sainteté foudroie la créature souillée. Dans l'Ancien Testament, vous le savez, le Seigneur avait pourvu le système des sacrifices pour que l'homme pécheur puisse s'approcher de lui et rester quand même en vie. On ne peut pas voir ma face et vivre quand on est pécheur, dit l'Ancien Testament. Mais le sacrifice est là pour permettre à l'homme d'approcher quand même de Dieu pour qu'il puisse vivre. Un animal pur est substitué sous la foudre de la sainteté à l'homme pécheur. Et donc, du coup, l'homme pécheur peut avoir la vie sauve. Foudre divine qui s'abat normalement sur le pécheur, mais il y a permutation. Le pécheur est remplacé par un animal sur l'autel du sacrifice. C'est là le système que présente l'Ancien Testament, les sacrifices. Et la victime sacrificielle, qui doit être pure, pour payer à la place de l'homme souillé, fait tandem avec le prêtre. Il faut le prêtre pour présenter le sang du sacrifice qui expie pour la vie de la personne coupable. Et il y a un verset qui utilise, il y en a un seul, c'est vrai, mais il y en a un verset, Exode 28, 38, qui utilise la même formule de porter les péchés, qui est habituellement utilisée pour la victime, qu'il utilise pour le grand prêtre, qui porte aussi les péchés. Parce que le prêtre et la victime vont ensemble pour se substituer au coupable. Le prêtre aussi, c'est lui qui se risque la présence immédiate du sacré et qui fait l'opération à la place du coupable qui n'est pas en état de le faire. Il ne s'agissait dans l'Ancien Testament que d'une figure, que d'une image que Dieu utilisait dans sa pédagogie. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit très clairement que le sang des taureaux et des boucs, de ces victimes qui étaient mises à mort à la place du coupable, était en fait incapable d'enlever les péchés. C'est parce que Dieu avait décidé de le faire comme ça dans le système d'image qu'il avait mis en place, mais en fait le péché n'était pas expié, car seule une vie d'homme peut expier pour une vie d'homme. Un animal ne peut pas vraiment remplacer un homme. Le Nouveau Testament nous atteste que ce qui était impossible en réalité aux taureaux et aux boucs offerts en sacrifice et aux prêtres de l'Ancien Testament qui présentaient leur sang, ce qui était impossible dans ce registre des figures, parce que ce n'était que des figures, c'est ce qui s'est passé en réalité à la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte et qui ôte en portant. Les deux choses sont dites, le péché du monde, c'est lui qui se substitue sur la croix aux coupables qui portent leur péché, et il est en même temps le grand prêtre qui accomplit ce service et qui accomplit la purification des péchés, comme dit le prologue de l'Épître aux Hébreux, nous l'avons lu tout à l'heure, après avoir fait la purification des péchés. Là, c'est le rôle sacerdotal. Le deuxième office d'onction, celui du grand prêtre, est bien mentionné dans ce prologue de l'Épître aux Hébreux. Il y a celui de prophète d'abord, mais il y a ensuite la purification des péchés, l'œuvre du prêtre, et Jésus comme grand prêtre dépasse tous les grands prêtres de l'Ancienne Alliance et tout autre grand prêtre imaginable, parce qu'il est en même temps le grand prêtre et la victime. Il est à la fois l'agneau et celui qui offre l'agneau. Il s'offre lui-même en sacrifice, et ainsi il opère la perfection du sacrifice. Il offre un sacrifice qui n'a pas besoin d'être répété parce qu'il est entièrement efficace. Il a un sacrifice qui vaut éternellement. Il peut sauver à l'extrême, totalement, ceux qui s'approchent de lui par la foi grâce à la perfection de son sacrifice. C'est le grand thème de l'Épître aux Hébreux, mais de toute la Bible. Et cela peut se dire semblablement, puisque le juste juge, c'est le Dieu Saint, et le Dieu Saint, c'est le juste juge, en parlant le langage de la justice, de l'avocat, il a payé à notre place notre dette à l'égard de la loi. Cette dette est maintenant complètement annulée. Le papier que nous signions, notre reconnaissance de dette, il est cloué à la croix, dit l'Épître aux Colossiens. Il a cloué à la croix le papier officiel qui marquait notre dette. Et de telle sorte qu'il est maintenant notre avocat devant le tribunal de Dieu qui obtient que pour nous il n'y ait plus de condamnation. Nous étions perdus parce qu'aucun avocat ne pouvait défendre notre cause. Nous étions sûrs d'être condamnés. Nous étions sous la condamnation. J'ai entendu une fois un prédicateur, c'est quand j'étais au Canada, il disait « Je connais un avocat qui ne plaide que les causes perdues, que les cas désespérés, où il n'y a aucune chance de faire valoir même des circonstances atténuantes. Et cet avocat, il gagne à tout coup. Cet avocat, il gagne tous les procès qu'il mène. C'est notre avocat, le Seigneur Jésus-Christ. À ne considérer que nous-mêmes, il n'y avait aucune chance que nous puissions être acquittés. Mais parce que lui s'est présenté, qu'il a parfaitement payé, il peut maintenant plaider notre cause avec une efficacité totale, entière. Il n'y a désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont en lui, qui se sont branchés sur lui, qui l'ont pris comme avocat. Voilà le message de la justification qui correspond à la purification. Notre conscience peut être purifiée de toutes ces œuvres mortes, de toutes ces œuvres de mort que nous avions commises. Il n'y a plus maintenant pour nous de crainte du châtiment. Même s'il doit y avoir encore un jugement où nos œuvres seront mises en lumière, nous sommes assurés de ne pas être condamnés parce que nous sommes pris en charge par le Seigneur Jésus-Christ qui a tout payé pour nous et qui se porte notre garant au tribunal de Dieu. Et nous avons, si on revient à l'image, ou disons au langage du sacrifice et de l'autel, nous avons maintenant un libre accès dans le lieu très saint. Nous avons, grâce à Jésus-Christ, le gros voile. C'était presque un matelas, hein. C'est un gros voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, la présence même de Dieu. Ce voile, qui n'était pas une légère gaze, hein, mais vraiment une barrière, il ne laissait pas passer même l'air, qui s'est déchiré. La reconnaissance de dette écloué à la croix, c'est fini. Le voile qui séparait l'humanité de la présence même de Dieu est déchiré au moment où Jésus est mort. Dieu a fait que ce symbole soit donné, que le voile dans le temple se déchire depuis le haut jusqu'en bas. Pas depuis le bas jusqu'en haut, mais depuis le haut jusqu'en bas, parce que ça vient de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et nous avons donc libre accès dans le sanctuaire. Nous pouvons aller jusqu'au trône de la grâce. Nous pouvons présenter toutes nos demandes au Seigneur, sachant qu'il nous accueille à cause de Jésus, à cause de l'œuvre sacerdotale de Jésus. Alors, par rapport au cheminement, j'ai dit, dans cette vie, c'est un commencement. Comment cette dimension-là de l'œuvre de notre salut peut-elle être présentée? Je pense qu'on peut dire que comme il s'agit de ce que Dieu fait pour nous en Jésus, de ce que Jésus a souffert pour nous comme l'agneau de Dieu et le grand prêtre, c'est du tout d'un coup. Il n'y a désormais plus aucune condamnation. Nous avons été sanctifiés dans ce sens, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes, dit l'Épître aux Hébreux. Donc dans ce sens, c'est du 100% dès maintenant. Si nous nous sommes joints au Seigneur Jésus par la foi, nous avons déjà le tout qui nous donne l'assurance du salut. Il n'y a pas d'autre chose à gagner. Mais dans la mesure où, ayant été justifiés par la foi, purifiés en notre conscience des œuvres mortes grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, stupidement et méchamment, nous commettons encore d'autres péchés. Nous continuons à trébucher et à faire des choses qui déshonorent notre Dieu, dans la mesure donc où il y a encore du péché dans notre vie, qu'est-ce qui se passe? La première épître de Jean nous dit que si nous confessons ces péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. Notre salut n'est pas remise en cause, puisqu'il est tout entier déjà donné. Mais, bien sûr, notre rapport au Seigneur, notre rapport à notre Père Céleste est perturbé si nous avons du péché. Ses yeux sont trop purs pour voir ce mal. Il est obligé de détourner son regard de nous si nous vivons dans le péché. Alors là, l'effet de l'œuvre de Jésus-Christ, pleinement accomplie une fois pour toutes pour nous, nous est à nouveau appliqué. Si nous nous tournons vers le Seigneur, l'effet de son sacrifice, le sang, l'effet de son sacrifice efface ce péché. Et nous pouvons jouir à nouveau de la pleine communion de notre Père Céleste. Voilà comment les choses se passent. Nous trébuchons encore de plusieurs manières. Si nous imaginons que nous n'avons plus de péché, nous nous amusons nous-mêmes. Il y a encore du péché dans la vie des chrétiens, hélas. C'est tout à fait irrationnel, mais c'est comme ça. Et l'effet du sacrifice de Jésus-Christ, de son office sacerdotal, c'est de permettre que nous soyons purifiés de ce péché que nous continuons à commettre jour après jour, étant bien assurés que nous sommes sauvés, parce que ce n'est pas par nos œuvres, c'est par lui. Voilà la deuxième grande dimension du salut que nous a obtenu Jésus, notre Sauveur. La troisième concerne sa royauté. Et elle correspond à la troisième dimension de notre misère. Nous sommes perdus aussi parce que l'ennemi est plus fort que nous. Qu'il nous tient, nous les hommes par nature, prisonniers, enchaînés. On pourrait décider éventuellement des menottes. Nous sommes prisonniers du diable et de ses puissances. On peut dire aussi que nous sommes malades. Le péché est comme une maladie à la mort, maladie de dégénérescence qui nous rend incapables d'agir. Et alors même que nous voudrions quand même essayer de faire le bien, nous n'y arrivons absolument pas. Il y a comme une sorte de loi en nous qui fait que chaque fois que nous essayons, nous échouons. Et c'est ce mal qui habite en notre chair qui l'emporte en réalité. L'apôtre Paul évoque cette situation dramatique au chapitre 7 de l'Épître aux Romains et le cri que cela fait pousser. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Donc nous sommes... C'est la troisième grande dimension de notre perdition. Nous sommes perdus parce que nous sommes enchaînés sous la tyrannie du diable et nous sommes malades, impuissants à faire le bien. Jésus comme roi triomphe de la tyrannie du diable et il fait en sorte que la volonté bonne, libératrice du Père puisse se réaliser effectivement dans notre vie. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est que sa volonté soit faite. Dans le Notre Père, nous prions ces formules qui sont équivalentes. Que ton règne vienne, ou ton royaume, c'est le même mot, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu règne quand sa volonté est effectivement faite. Et le Seigneur est venu annonçant le royaume qui, puisqu'il était là, était tout proche. Et il est entré dans son règne sur la croix. Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Répond Jésus au brigand. Le règne du Seigneur, c'est ce qu'il est venu fonder par l'œuvre de sa première venue. Et nous en bénéficions de telle sorte que nous sommes sauvés de la tyrannie et de l'impuissance. Jésus apparaît dans le Nouveau Testament comme celui qui est roi et vainqueur du diable. Le diable avait usurpé l'empire sur ce monde. Il joue le rôle du prince de ce monde. Et le Seigneur Jésus, dans un immense duel, triomphe de lui. Triomphe de lui sous une forme paradoxale, puisque c'est en se laissant mettre à mort. C'est par la mort qu'il réduit à l'impuissance celui qui avait la puissance de la mort. C'est un paradoxe, c'est la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée qui s'accomplit à la croix de Jésus. Le diable est vaincu. Le Seigneur, par sa croix, l'enchaîne et toutes les puissances sont là comme le cortège des ennemis vaincus qu'un général romain, lors des grandes fêtes de sa victoire, traînait après lui dans la ville de Rome. Le Seigneur Jésus est vainqueur par sa croix du diable et du coup, il nous libère de la tyrannie du diable. Et puis, il nous libère aussi de cette maladie de langueur, de dégénérescence qu'est le péché, en changeant effectivement notre nature, en nous régénérant, en œuvrant par son Saint-Esprit qu'il nous envoie, de telle sorte que notre être est recréé, saint, avec les forces voulues pour marcher selon Dieu. Alors c'est ainsi que nous bénéficions de cette œuvre de salut. Lorsque nous nous branchons sur lui, que nous le recevons comme notre chef, alors nous sommes à l'abri des atteintes du malin. Au chapitre 5 de la première épître de Jean, Jean y va très très fort, hein, mais c'est la vérité de la parole de Dieu. 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche pas. Mais celui qui est engendré de Dieu, c'est-à-dire le Christ, le garde. Et le malin ne le touche pas. Le malin ne le touche pas. L'assurance d'une protection radicale. Alors c'est dans la mesure où nous sommes attachés au Christ, où nous tenons à lui, que nous sommes effectivement à l'abri des attaques du malin. Si nous nous séparons de Jésus-Christ en allant essayer de voir ailleurs, alors là nous pouvons tomber sous les coups du malin. Il rôde comme un lion rugissant pour essayer d'en profiter. Mais il est vaincu par le Christ. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et si nous tenons au Seigneur Jésus, nous sommes assurés de demeurer là à l'abri, sous sa garde. Le malin ne le touche pas, dit le texte. Et puis, d'autre part, nous recevons l'Esprit de Jésus-Christ qui nous donne la force de marcher comme lui-même a marché. Nous passons de la mort à la vie avec lui comme lui. Vous pouvez remarquer qu'on peut dire les deux choses. Jésus est mort pour que nous n'ayons pas à mourir, et Jésus est mort pour que nous mourions à sa suite et renaissions, ressuscitions à sa suite. Les deux sont vrais. Jésus est mort, il a pris notre châtiment, et ce châtiment, nous n'avons plus à le supporter. Et la mort comme séparation de Dieu, non, cela, nous en sommes absolument délivrés. Donc il est mort pour que nous ne mourions pas. Mais, comme il est notre chef que nous suivons, en mettant fin au passé pourri, au vieux personnage, le vieil homme pourri, en le conduisant jusqu'à la croix, Jésus a ouvert un chemin dans lequel nous le suivons. Notre vieil homme, comme disent les vieilles traductions, mais c'est littéral, a été crucifié avec Christ. Avec Christ, tout notre passé est liquidé. Donc il meurt, et nous venons à la vie. Le passage de la mort à la vie, c'est le passage où Jésus-Christ, notre chef, passe le premier et où nous le suivons. Il est mort pour que nous mourions ensuite à notre ancienne façon de vivre, qui était en fait une mort, et que nous accédions à la vie véritable. Alors ici encore, c'est un commencement. C'est un commencement et ce n'est pas encore la plénitude de cette vie qui nous est acquise en lui, notre chef, la vie du royaume. Le royaume est là. Joie, paix, Saint-Esprit, justice, joie, paix, par le Saint-Esprit, mais il n'est pas encore pleinement établi. Il n'est pas établi en particulier dans l'ordre visible. C'est pour ça qu'il y a deux limitations à ce bienfait dont nous jouissons dès le temps présent. Pour le moment, il affecte seulement l'homme intérieur. Notre corps attend encore les effets de cette libération de la maladie qu'est le péché. L'homme extérieur continue de se détruire. Notre corps est encore affecté par toute cette causalité liée au péché. Le Christ nous a acquis la pleine libération à cet égard aussi. Mais c'est pour plus tard. Si le Seigneur nous guérit miraculeusement comme il le fait, selon qu'il lui plaît, dès le temps présent, c'est seulement un signe par rapport à la libération entière qui est encore à venir. Donc c'est une limitation. C'est notre être intérieur, c'est pas encore notre être extérieur qui en bénéficie. Puis la deuxième limitation, c'est que même pour notre être intérieur, ce sont des arts. Les arts, c'est ce qu'on donne en vue d'un paiement futur, mais c'est juste une partie. On pourrait dire que c'est un germe. Et la vie qui est en nous, par le Saint-Esprit, elle doit grandir, s'affermir, mais ce n'est pas encore le tout. C'est pour ça que nous sommes encore souvent tentés et que nous tombons. Mais nous avons la promesse que celui qui a commencé en nous cette œuvre bonne du salut la rendra parfaite pour le jour du Seigneur Jésus. Et nous pouvons dire, parce que Jésus est notre Sauveur, comme divers textes bibliques permettent de le dire, que nous avons été sauvés, une fois pour toutes, et lorsque nous l'avons reçu en venant au Christ, que nous sommes en train d'être sauvés. C'est un processus dans lequel nous sommes engagés. Le salut se réalise progressivement dans notre vie. Et c'est ce qu'on appelle souvent la sanctification aussi, mais il y a aussi toute la vie d'Église. Et puis, nous serons sauvés. Nous attendons, pour prix de notre foi, le salut qui est prêt d'être révélé. Nous serons sauvés en plénitude quand le Seigneur Jésus reviendra. Oui. Si les trois aspects, selon le temps, de l'œuvre de Jésus, notre Sauveur, pour nous. Voilà, c'était un panorama, je vous ai dit. Hein. C'était un effort pour voir les choses largement. J'ai l'impression que vous avez supporté l'ampleur de cette perspective. Nous avons maintenant 8 minutes pour des questions. Monsieur Sinamo. Alors la question porte sur le sort de ceux qui n'ont pas entendu ce message. C'est une question qui est délicate et sur laquelle les chrétiens évangéliques, les docteurs de l'Église du côté évangélique ne sont pas tous d'accord. Donc je vous avertis, je vais vous dire ma conviction, ma conclusion, mais ce n'est pas un sujet donc sur lequel il y a une seule chose qui est obligatoire comme doctrine pour tous. La première chose à dire, c'est que certainement, ceux qui sont dans la situation que vous avez évoquée sont défavorisés par rapport à nous et par rapport à ceux qui vivent autour de nous et auxquels quand même le message a pu être dit. Il faut apprécier à sa valeur le privilège d'un tel message et du coup, ce doit être une motivation supplémentaire dans l'obéissance à l'ordre du Seigneur d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est sans doute la motivation principale pour la mission. Mais deuxièmement, je pense pouvoir dire que les personnes même qui n'ont jamais eu de missionnaires, qui n'ont pas eu de possibilité de connaître selon des voies humaines ou peut-être par un tract qui serait tombé sous leurs yeux, ou connaissances, ne sont pas forcément perdues. C'est-à-dire que la grâce de Dieu, la grâce qui vient du sacrifice de Jésus-Christ, la grâce dont nous venons de parler, peut les avoir touchés, même dans une situation d'ignorance, loin de tout moyen de connaissance humaine. Alors, je ne suis pas seul à croire cela, n'est-ce pas ? Il y a toute une bonne partie de ceux qui sont théologiens évangéliques, mais ce n'est pas tous. Il y a bien sûr les possibilités spéciales de révélation, de vision. Dieu peut parler, s'il le veut, dans n'importe quelle culture, dans le coin le plus retiré du monde, s'il le veut. Et je pense qu'il l'a fait plus d'une fois. Il l'a fait, on le sait, particulièrement souvent, même lorsqu'il y avait une information sur le contenu de la Bible, dans des pays où le témoignage était réprimé, dans des terres où l'islam domine. Je me rappelle avoir lu qu'il y avait un groupe de chrétiens dans des pays de type islamique qui étaient tous venus au Seigneur parce qu'ils avaient eu une vision de Jésus-Christ. Comme le Sadhu Sundar Singh aussi s'est converti en Inde par une vision. Donc, je crois que nous pouvons très bien dire, Dieu a pu en sauver, et peut-être plus nombreux qu'on imagine, pas en utilisant des moyens de ce genre. normalement c'est par la Bible, et il veut que nous diffusions la Bible, et la parole de notre témoignage avec la Bible, mais Dieu n'est pas pour autant prisonnier. Il peut user d'un autre moyen s'il lui plaît. Et théologiquement, je pense pouvoir dire que il y a dans la révélation générale, celle de la création et de la providence divine, suffisamment de lumière pour que le Saint-Esprit puisse s'en servir et faire comprendre à quelqu'un qu'il est pécheur et que son seul espoir ne peut être que l'amour du Dieu qui se révèle comme un Dieu d'amour, le Dieu qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, un Dieu de grâce. Il se révèle dans sa création comme tel et dans sa providence. Et je crois pouvoir dire qu'il y a le minimum, alors c'est vraiment très peu à côté du message détaillé que nous avons, mais je pense que ce minimum est suffisant, le Saint-Esprit l'utilisant, hein, pour que quelqu'un puisse venir à une foi authentique, sans grande connaissance, mais qui se place finalement en Dieu par Jésus-Christ. Il ne sait pas comment Dieu résoudra le problème, mais il lui fait confiance, et c'est en Jésus que Dieu a résolu le problème. Donc je crois que c'est une possibilité, ce qui veut dire que nous n'avons pas à dire « Oh, soit ces gens sont sauvés parce qu'ils étaient ignorants ». Non, ça c'est jamais comme ça dans la Bible. C'est pas l'ignorance qui sauve. Nous n'avons pas à dire non plus « Alors ils sont tous nécessairement perdus ». Dieu a pu utiliser la révélation générale, a pu utiliser des révélations spéciales privées, comme des visions, et donc nous n'avons pas à nous mettre l'angoisse de ce problème en tête. Nous pouvons faire confiance à notre Seigneur et obéir à l'ordre missionnaire. Oui. Je pense qu'en effet, il est intéressant que ce verset du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux donne un contenu de style assez général à la fois qui rend agréable à Dieu, qui sauve. En effet, on peut citer ce verset. Oui, sœur Maryse. Oui. Alors il s'agit du rôle prophétique de Jésus-Christ et de l'importance de l'humanité à cet égard. Je ne suis pas absolument sûr de comprendre la question, je l'avoue, mais je dirais une chose, et puis peut-être pourrez-vous reprendre la parole pour préciser si je suis tout à fait à côté de la plaque, que le rôle prophétique de Jésus-Christ, il le joue à la fois comme Dieu et comme homme. C'est dans la chair qu'il révèle effectivement qui est Dieu et aussi ce qu'est l'homme. Et je n'ai pas développé, mais effectivement on peut montrer comment le rôle prophétique de Jésus-Christ est un rôle qui rend son humanité lumineuse. Que Jésus l'homme est celui qui nous montre vraiment ce pourquoi nous étions faits, quelle est la vérité de l'être humain, et que l'humilité qu'il montre en tant qu'homme, parfaitement obéissant, est aussi un puissant témoignage prophétique. Oui, je pense qu'on peut le dire, mais je ne sais pas si c'était votre pensée. Oui, oui. Alors la question porte sur les avertissements que l'on trouve par exemple dans l'Épître aux Hébreux et la question de la possibilité de perdre son salut. Alors je crois vraiment que l'heure étant arrivée, je ne peux pas me mettre à traiter ce sujet que nous avons déjà pu toucher dans des séries antérieures. Je pourrais y revenir, mais pour l'instant je me contente de dire que je ne crois pas que quelqu'un qui est vraiment attaché au Christ par une foi authentique, correspondant à l'image du grain qui tombe dans la bonne terre, dans la parabole de Jésus, la parabole du semeur, parce que Jésus parle aussi d'une foi superficielle, juste pour un moment, c'est pas une foi profondément enracinée, mais quelqu'un qui donc a vraiment mis sa foi en Jésus-Christ, je crois qu'il ne peut pas être séparé de lui, que nul ne le ravira de la main du Seigneur. Mais je ne vais pas développer maintenant, parce que là, je crois que je n'en ai pas le temps. Je signale que sur ces sujets, si vous voulez des développements, alors des développements dans un langage bien plus technique, vous pouvez utiliser les volumes qui ont paru maintenant, qui correspondent à mes cours. Il y a le volume de la doctrine du péché et de la rédemption, où le sujet que vous venez d'évoquer est traité dans la dernière partie, c'est la dernière partie de ce volume. C'est celui-là, la doctrine du péché et de la rédemption, donc. C'est un volume de 367 pages, hein, donc. Et puis, tout récemment, apparu un deuxième volume dans la même collection, qui est la doctrine du Christ, où j'ai une longue section où j'expose bien plus en détail les trois offices du Christ et ce qui les concerne. Donc, ceux qui veulent pousser l'étude plus loin, mais ça peut être un petit peu aride, c'est vrai, mais là, je ne fais pas de petits dessins. peuvent utiliser ces volumes. Voilà, notre frère, ce sera la dernière question, je pense. Oui. Alors, la question porte sur le verset, je pense que c'est dans Romains chapitre 2, qui dit que chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Est-ce que ça veut dire que ceux qui auront fait le bien seront sauvés? Alors, je répondrai en reprenant les termes de la question, mais en les changeant un petit peu. Ceux qui auraient fait le bien seraient sauvés. Oui. Si quelqu'un a entièrement accompli la volonté de Dieu, a obéi à tous les commandements toujours, et c'est ça le commandement, hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Donc, si quelqu'un ne le fait qu'à 999 pour 1000, il a transgressé le commandement. Si quelqu'un a obéi à tous les commandements, il est sauvé. Il est sauvé. En fait, il n'est même pas perdu. Seulement la Bible nous dit qu'il n'y en a qu'un seul. Un seul qui l'a fait. C'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est le seul qui a parfaitement obéi et qui ainsi a pu se substituer dans son amour au jugement qu'il n'avait pas mérité. Alors, il y a, à partir de là, bien sûr, quand même, une prise en compte par le jugement de Dieu du bien et du mal relatif qui ont été faits. Tout le bien que les hommes font, selon les possibilités de leur nature, est entaché de mal. Ce n'est nulle part un bien intégral. Alors, il ne peut pas se permettre qu'il soit sauvé. Mais Dieu, dans sa bienveillance, en tient quand même compte. Et il nous dit bien que dans le jugement, ce sera plus ou moins sévère, selon les œuvres qui auront été faites. Elles compteront aussi, même dans la perdition. Et puis, la deuxième considération, c'est qu'en ce qui concerne ceux qui ont mis leur foi dans le Christ, qui sont sauvés à cause du bien qu'il a fait lui, à cause de sa substitution, il y a un aspect du jugement qui concerne leurs œuvres, bien ou mal. Là, ça concerne la récompense. La récompense. Nous recevrons, selon le bien ou le mal que nous avons fait dans notre vie chrétienne, en plus du salut, nous recevrons une récompense qui sera sans doute une façon de jouir plus subtilement et plus vivement du ciel encore. C'est ça la grande récompense. Nous serons d'autant plus heureux d'être avec le Seigneur. Nous serons tous très heureux, mais d'autant plus heureux que nous aurons marcher selon sa volonté sur la terre. Voilà, nous avons atteint l'heure, donc nous sommes obligés de nous arrêter.